Alors, un petit sondage. Parmi vous, qui ne connaît pas l'histoire d'Abraham? C'est bien, j'ai des connaisseurs en récit biblique. Alors, vous savez, la vie chrétienne se résume en deux choses. Elle se résume en ceci. Apprendre à aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme et de toute sa pensée. Et apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais le problème, c'est que c'est tellement vaste comme programme qu'il faut toute une vie pour apprendre. Jésus nous appelle ses disciples parce que c'est un long apprentissage. Nous sommes toujours disciples. Et l'histoire d'Abraham, je trouve, cette histoire va nous apprendre quelque chose dans ces deux domaines, aimer Dieu et aimer son prochain. Je vous invite à regarder avec moi. C'est vrai que je suis un peu embêté par ce fil. Dans Genèse chapitre 18. Mais non, ça va aller, ça va aller. Genèse chapitre 18, donc on va lire du verset 1 à 14 et je lis dans la version du semeur. Merci beaucoup, c'est sympa d'être à mes petits soins. Voilà, donc Genèse 18, verset 1 à 14. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à la rencontre, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là, sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin. » puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite trois mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux trois hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?»« Elle est dans la tente, » leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Pas de référence à Perkins. Hein. Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-être peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Alors, j'ai choisi cette lecture en partie parce que c'est dans mes lectures quotidiennes cette semaine. J'étais tombé sur cette histoire. Donc voilà, j'ai choisi de m'inspirer de ce texte. Donc, au verset 1, voilà, on a comme un titre à l'épisode, « L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré ». À l'époque, il n'y avait pas de surligneur de caractère gras et c'est ça qui fonctionne un peu comme un titre. Et voilà, on présente Abraham assis à l'entrée de sa tente et il observe le monde qui passe. Alors, moi personnellement, j'habite à Paris, je suis jaloux d'une telle tranquillité. Je l'ai vécu un peu hier soir dans la campagne Paulaguet, voilà, près de Paulaguet. Et là, il voit tout un coup trois hommes qui passent à l'horizon. Alors j'imagine la scène, c'est la forte chaleur du jour. J'imagine l'espèce de brume de chaleur qui monte et peut-être un peu comme un mirage, il voit à l'horizon trois hommes. Et vous savez qu'au moment de ce récit, Abraham a 99 ans. Mais regardez la rapidité avec laquelle il se lève. Il court vers ces hommes. Il court afin de leur offrir de l'hospitalité. Et c'est vrai que dans sa culture, l'hospitalité était quelque chose de très importante, une obligation même, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel Formule 1. Les voyageurs couraient des dangers en voyageant, donc c'était bien une obligation. Mais ici, quel empressement de la part d'Abraham de montrer l'hospitalité. Il va au-delà, bien au-delà ce qui est attendu de lui par sa culture. Il prend l'initiative d'aller les chercher, les faire venir chez lui. Il propose de l'eau en quantité, à manger en quantité. 3 mesures de farine, ça fait 12 litres de farine. Donc il propose une abondance. Alors, certains cyniques peut-être diraient, oui, bon, il s'ennuyait dans sa tente, c'était bien, il y avait de la compagnie. Je ne pense pas, il y avait des centaines de personnes dans sa maisonnée. D'autres peut-être diraient, oui, bon, il voulait faire étalage de son abondance, c'était un homme riche. Mais je ne crois pas. Je crois qu'Abraham, c'est quelqu'un qui avait le cœur généreux, et je crois que c'est un exemple pour nous. Alors, cela m'interpelle. Ça nous interpelle. Quand est-ce que vous avez pris l'initiative d'inviter vos voisins pour la dernière fois? Peut-être récemment. Ici, tout le monde dans cette région le fait. Je sais que nous, en région parisienne, ça ne se fait pas. C'est chose rare. Mais en tant que chrétien, nous avons ici un exemple à suivre. En la personne d'Abraham, quelque chose de simple que nous avons à faire. Cet homme, Abraham, est appelé à être en bénédiction à toutes les nations de la terre. Nous sommes ses enfants spirituels, nous sommes de même appelés à être en bénédiction à tous ceux qui nous entourent. Et très simplement, autour de la table, nous pouvons avoir des moments de partage privilégiés, nous pouvons partager ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, notre foi. J'ai appris récemment que l'homme qui a lancé la fête des voisins, c'est un catholique engagé, et il trouvait que les gens étaient trop déconnectés aujourd'hui. Et c'est lui qui a eu cette initiative d'encourager les gens à se reconnecter. Alors, je suis arrivé dans mon immeuble au mois de mars, fin mars, et c'était au mois de mai. Alors, qui a fait la fête des voisins? Ça existe ici? 2 personnes ont fait la fête des voisins. Et j'avais vraiment envie de utiliser cette occasion de connaître les gens de mon immeuble. J'ai fait le tour, j'ai invité, et j'ai réussi à faire venir celui qui habite en dessous avec ses enfants. Et on a passé une partie de la soirée ensemble. Et puis en septembre, je l'ai réinvité, prendre l'apéritif, on a fait une soirée jeu avec ses enfants, il est père célibataire. Et la première fois qu'il est venu, il m'a demandé, bon voilà, c'est normal, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc j'ai essayé d'expliquer un peu mon rôle. Déjà, Eric a eu du mal, vous imaginez, à quelqu'un qui ne connaît pas l'église. Bon, semi-pasteur, on va dire, je suis semi-pasteurisé. Je n'ai pas dit ça. Et bon, j'ai vu qu'il n'était pas du tout intéressé. Ok, bon, d'accord, on a changé de sujet. Et puis, à la fin de la deuxième soirée, où on a joué des jeux avec ses enfants, il dit, mais en fait, toi qui es un peu, il cherchait ses mots, chrétien? Oui, chrétien. Qu'est-ce que tu penses d'où on va dans le monde aujourd'hui? Ben voilà, c'est un boulevard pour partager l'espérance. Notre monde est de plus en plus déconnecté socialement. Alors, il y a une phrase qui m'énerve, la fracture numérique. Vous avez entendu cette phrase? On parle de fracture numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des pauvres gens qui n'ont pas accès à Internet au débit. Et c'est un frein à la croissance, et comme la croissance économique, c'est ce qui est le plus important, il faut tout faire absolument pour qu'on fasse arriver le haut débit au coin les plus reculés, pour que les gens, les pauvres qui ne peuvent télécharger leur film qu'en 15 minutes au lieu de 15 secondes, puissent enfin respirer. Vous savez qu'on vit dans une société où, en moyenne, un Français passe 4 heures sur son ordinateur, sur Internet, par jour, et 1 heure sur son téléphone portable. C'est quoi la fracture numérique? C'est à l'intérieur de nous. Nous sommes dans une époque de fracture numérique. Notre cerveau est en train de changer physiquement. Il y a des études qui le montrent par nos habitudes. Et malheureusement, nos relations passent de plus en plus par un écran et de moins en moins par un vrai contact. Et en tant que chrétiens, nous avons l'appel et l'obligation de montrer une contre-culture à celle qui nous entoure. Et comme Abraham prend l'initiative d'aller chercher ceux qui sont perdus dans le désert de la modernité. Aujourd'hui, nous vivons l'époque où les gens se sentent le plus seuls, malgré toute cette connectivité. Et ce qui se passe, c'est qu'au passage, nous pourrons accueillir Dieu lui-même. Ce texte parle au début de 3 hommes. Mais vous avez vu, à un moment donné, on parle de l'Éternel qui parle à Abraham. Plus tard, on parle de 2 anges. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui voient dans ce trinôme une image de la Trinité. Et je pense que c'est juste. En tout cas, c'est sûr que ça passe de trois hommes à quelque chose de plus complexe. L'Éternel, Dieu lui-même, est présent quelque part sous forme physique ici, avant l'incarnation de Jésus-Christ. Et je trouve que c'est une très belle image de ce que Dieu a fait. Dieu vient à notre rencontre, communier, manger avec nous. Et c'est là, dans ce contexte d'hospitalité, d'accueil d'un étranger, un inconnu, qui se révèle être Dieu, que Dieu fait sa promesse la plus claire à Abraham concernant le fils qu'il devait avoir. Alors que tout espoir de fécondité est mort pour ce couple. Et ça me rappelle beaucoup ce que Jésus a dit en Matthieu 25. Il a dit, à la fin des temps, à ses disciples, « J'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger. » Dieu dit ça. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. » Alors si je ne suis pas capable de donner à manger, à boire, accueillir chez moi un étranger, ça veut dire que je ne suis pas capable d'accueillir Jésus. Et ça m'interpelle. Alors je prie pour moi-même, je prie avec ma femme, nous prions, je prie avec vous, pour vous. Seigneur, élargis mon cœur, accorde-moi d'être généreux, d'être hospitalier. Parce qu'en le faisant, je t'accueille, toi. Et je pense qu'il y a un élément de fécondité qui vient aussi. Alors je ne parle pas forcément d'avoir des enfants physiques, mais je suis assez convaincu que si en tant que peuple chrétien, nous sommes capables de développer une vraie hospitalité, nous allons voir plus de nouvelles naissances. Parce que dans ces moments de communion, de partage, nous pouvons aller au fond des choses. Et je pense qu'il y a une fécondité qui peut être là. Et Jésus nous interpelle, Jésus il est toujours très, très radical dans ses propos. Et dans Luc 14, verset 12, il dit, « Si vous donnez un déjeuner ou un dîner, si tu donnes, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te la rendre l'appareil. » Et Dieu lui-même te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. Il y a un ami qui vient parfois à la maison, assez souvent. Il habite dans son camion. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails pourquoi. C'est un peu un choix qu'il a fait. Et il vient régulièrement prendre sa douche chez nous et manger un peu. Et en fait, ils sont vraiment mauvais. Parce qu'il travaille dans le bâtiment, il transpire beaucoup et il vient prendre sa douche de temps en temps. Et cet homme m'interpelle parce qu'il vit vraiment quelque chose de très profond avec le Seigneur. Et quand on prie ensemble, il se passe quelque chose. Lui, c'est comme s'il apporte la présence de Jésus dans la maison. Quelqu'un a dit, si chaque chrétien invitait une personne dans le besoin, chez lui, une fois par semaine, le monde serait transformé. Je crois que c'est vrai. Je connais des gens qui se sont donné comme règle de vie de partager 3 repas par semaine avec d'autres personnes, dont au moins une qui n'est pas membre de son église. Et je trouve que c'est une bonne règle de vie à se fixer. Alors, repas, ça peut être un café, un apéritif, etc. J'essaie avec... Alors, je suis marié depuis 4 mois, je suis en apprentissage, en rodage avec ma femme. J'essaie de lui dire, mais ça serait bien si on faisait pareil. Et elle, en fait, ça lui a fait très peur, parce que pour elle, inviter, ça veut dire préparer une entrée, plusieurs plats, pas un seul, plusieurs. Alors, elle est africaine, hein. Plusieurs plats, un dessert, tout ça fait maison avec les meilleurs ingrédients possibles et en utilisant toute la vaisselle dans la maison. Moi, j'étais longtemps célibataire. Pour moi, c'est bon, réchauffer quelques pâtes, ça suffit. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes d'hospitalité. Donc, bon, ça la stresse. Je dis, tiens, on va inviter quelqu'un jeudi parce qu'elle voit tout le travail à faire. Bon, je rassure, j'essaye de faire la cuisine avec elle. C'est juste qu'elle fait tellement mieux qu'elle arrive, elle me dit, bon, non, non, il ne faut pas faire comme ça. Et puis, elle recommence. Puis, finalement, je laisse toute la place à ma femme parce qu'elle fait ça très, très, très bien. Mais on a parlé de ça, de l'hospitalité, de l'accueil. On a mis une ligne budgétaire dans notre budget pour l'hospitalité, parce qu'on veut vraiment marquer ça. Et donc, j'ai, on va dire, négocié le droit de faire des invitations spontanées à des personnes célibataires, parce que j'étais longtemps célibataire et je sais à quel point c'est important. On est en train de préparer. Tiens, est-ce que je peux inviter un tel? Ok, hop, invite-le. Et ça marche. Et je pense que toute la Bible nous invite, nous encourage à exercer l'hospitalité. Vous savez, il y a plusieurs listes dans le Nouveau Testament où Paul dit quels sont les critères de sélection pour les responsables d'église. On en trouve par exemple dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Et le fait d'être hospitalier est cité en troisième lieu de critère. Il y a une autre liste en Tite, chapitre 1, verset 8. Et il commence avec le négatif, il ne faut pas qu'il soit, etc. Et puis sur le positif, le fait d'être hospitalier, c'est la première qualité de sélection de responsable d'église. Alors pourquoi? Je pense parce que ça montre l'état de notre cœur. On a parlé de bienveillance tout à l'heure. Ça montre si nous avons cette bienveillance. Dieu cherche des personnes qui ont le cœur généreux, accueillant, hospitalier. Il y a un verset qui m'a marqué récemment dans 1 Thessaloniciens 3, verset 12. C'est un verset tout simple. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Alors ça, c'est une belle prière à faire. Que le Seigneur nous remplisse d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Je ne parle pas de transformer notre maison en plaque tournante, les portes ouvertes tout le temps. Il faut savoir se ressourcer aussi. La vie nous pompe, les gens peuvent nous pomper, ça on le sait. À l'époque d'Abraham, on vivait forcément les portes ouvertes, la tente, il n'y a pas vraiment de porte. Nous, on vit dans un monde d'embouteillages, de patrons pénibles et de portes qu'on va fermer à double tour. Mais je suis convaincu que chacun peut se pousser à aller un peu plus loin sur le chemin de la générosité et l'hospitalité, sans s'épuiser. Alors, on va revenir à notre texte, parce que j'ai beaucoup parlé d'hospitalité, mais le texte ne parle pas que de ça. Alors, la suite de cet épisode, donc, il y a eu cette promesse qui a été faite, Sarah qui en rigole, et puis verset 16, ces hommes se remettent en chemin, ils partent, et la suite, Dieu semble entrer en dialogue avec lui-même. Et il dit, verset 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Ensuite, il se rappelle qu'il a choisi Abraham pour être une source de bénédiction pour tous les peuples. Et puis, il choisit de dévoiler ses plans à Abraham. Et il y a une intimité ici, entre Dieu et Abraham, qui est extraordinaire. Et pour moi, c'est la suite logique du temps qu'ils ont passé ensemble. Abraham a su accueillir Dieu. Alors, on peut lire cet épisode comme un encouragement à l'hospitalité, très simple, mais aussi, je pense, comme une image de la prière. Abraham a pris le temps d'accueillir Dieu chez lui. Il y a une intimité qui s'est créée. Et Dieu décide ensuite de lui révéler certaines choses. Alors, il se trouve que ces plans sont plutôt des plans qui font peur. Il propose d'amener en jugement les deux villes de Sodome et Gomorre parce qu'il règne dans ces villes une corruption terrible. Mais là, Dieu ouvre une porte à Abraham pour entrer en dialogue avec lui. Et c'est ce que Abraham fait. Et il y a ce fameux dialogue, c'est une sorte de marchandage entre Abraham et Dieu. Verset 23, Abraham s'approcha et dit « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ?» Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? Alors, Abraham discute très librement avec Dieu. Alors, c'est toujours sur le ton du respect. Mais rappelons-nous, Abraham était décrit comme l'ami de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir gravé sur ma pierre tombale. Il était ami de Dieu. Je pense que c'est un très bel objectif à avoir dans la vie. un tel, une telle était ami de Dieu. Et puis donc, il y a ces négociations. Bah, s'il y a 50, est-ce que tu vas détruire 45, 40 et ainsi de suite jusqu'à 10. Et je trouve ici qu'Abraham, il a ce cœur généreux, pas seulement dans l'accueil de l'inconnu, de l'étranger, mais aussi dans ce souci qu'il a de voir les gens épargnés du jugement divin. Et ça m'interpelle. Est-ce que moi, je suis aussi prompt à implorer la justice et la miséricorde de Dieu pour les gens autour de moi, pour que Dieu fasse grâce? Je pense que Dieu cherche des personnes avec qui il peut avoir ce genre de dialogue. Il cherche des intercesseurs, il cherche des amis, des gens qui le connaissent au point de pouvoir lui dire « Toi, Dieu, tu es comme ça, tu ne peux pas agir comme ça. » Des gens qui savent que Dieu est d'abord un Dieu de grâce. Dieu cherche cette communion avec nous. Dans l'Apocalypse 3:20, il y a ce fameux verset qui dit, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je mangerai avec lui, j'aurai une communion avec lui. Je ne sais pas s'il n'y a pas de scène de prévu, mais quand on prend ce qu'on appelle dans les églises catholiques la communion, c'est un repas de partage. On scelle l'alliance avec un repas. Alors, l'accueil, accueillir quelqu'un, c'est lui faire confiance. Accueillir Dieu, c'est lui faire confiance. C'est ce choix qu'Abraham a fait. C'est pour ça que qu'Abraham est appelé souvent le père de la foi. Donc, la suite de cet épisode, apparemment tout le monde le connaît. Dieu réalise sa promesse. Ils ont un fils, Isaac. Et quelques pages plus loin, on voit que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, de le mettre sur un autel, de donner, d'offrir à Dieu ce qu'il a de plus cher, cet enfant promis. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Est-ce qu'il prend plaisir à donner et puis reprendre? Non. Simplement, quelle que soit la bénédiction que Dieu nous donne, nous pouvons toujours, notre cœur est tortueux, et nous pouvons toujours nous attacher plus à une bénédiction qu'à celui qui bénit. Et c'était, je crois, Luc qui a dit, il veut entièrement, et notre cœur entier, il veut que notre cœur soit entièrement acquis à lui. Lorsque nous laissons la place dans notre être intérieur, des bénédictions à prendre une place au-dessus de Dieu, ça devient des idoles et des pièges. Je connais une femme qui, elle voulait tellement avoir un enfant, c'est devenu une sorte d'idole dans son cœur. Quand elle a enfin eu un enfant, en fait, elle a surprotégé l'enfant, elle a un peu gâté sa vie, elle en a fait une idole. Alors ça, c'est toute une autre prédication. Mais voilà, Abraham obéit encore à Dieu. Il ne retient rien. Il a une générosité de cœur à l'égard de Dieu. Alors, on connaît l'histoire, on sait que Dieu n'a pas à empêcher Abraham de mettre la main sur son fils physiquement, et on sait qu'il ne nous demande pas de faire ça, une telle chose. Mais tout de même, être généreux à l'égard de Dieu, c'est être prêt, si nous sentons qu'il nous demande, de lui sacrifier certains rêves, certaines ambitions, certaines attaches, et de lui faire confiance qu'il va pourvoir à nos besoins véritables. Et on peut dire que tout le message de la Bible est un appel à une générosité de cœur à l'égard de Dieu, à dire « Seigneur, si tu me le demandes, je t'offrirai ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de plus grande valeur. » Et cette attitude qu'a Abraham, c'est ça qui permet à Dieu de le bénir, de lui faire confiance, parce qu'il ne s'attache pas trop à des choses, et donc Dieu peut le bénir. Il fait confiance à Dieu. Et on connaît cet épisode sur la montagne, son fils lui demande « Mais où est le sacrifice ? Je vois le bois, je vois les pierres, je vois l'autel, mais je ne vois pas l'animal qu'on va sacrifier. » Et cette fameuse réponse d'Abraham, « Dieu lui-même pourvoira au sacrifice. » Et en disant ça, Abraham prophétise la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'homme Dieu, Dieu qui se donne lui-même, avec une totale générosité et une libéralité incroyable. Dieu devient homme, marche parmi nous, donne sa vie, corps et âme entièrement pour nous. Et lui nous appelle à nous donner corps, âme, esprit et aussi maison à lui. Et c'est ça, aimer Dieu, aimer son prochain. Dieu, tu mérites pleinement, totalement, tout don que je peux te faire, tout ce que je peux t'offrir. Et la vie d'Abraham montre que c'est quelqu'un qui, il est riche, mais il ne tient pas tant que ça à ses richesses. C'est quelqu'un qui a compris que rien de ce que nous possédons nous appartient vraiment. Rien. Dans la Bible, nous sommes décrits comme des gestionnaires, des biens de Dieu. Tout l'or, tout l'argent, toutes les richesses de cette terre appartiennent à Dieu. Si nous en avons quelques-uns, c'est juste un temps il nous les prête à gérer. Et si nous avons un toit, un travail, de quoi manger, nous pouvons être profondément reconnaissants à Dieu. Profondément. Soyons reconnaissants et cette reconnaissance va nous amener à la générosité. Une générosité qui va au-delà, comme l'a dit Jésus, d'une générosité envers nos proches, nos amis, ceux qu'on aime naturellement et facilement, mais qui va bien au-delà et qui accueille l'étranger, qui cherche, qui prend l'initiative d'accueillir celui qui ne peut pas nous rendre pareil. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit être généreux? Tout simplement parce que Dieu a tout fait pour nous, a tout donné, tout pourvu, tout fait pour nous. Absolument tout. Notre hospitalité, notre générosité ont pour moteur pas un sentiment d'obligation, mais une simple reconnaissance. Seigneur, tu m'as tout donné, absolument tout. Et mieux je comprends que Dieu nous a tout donné, mieux je pourrais être généreux, hospitalier, partage, être aussi dans cette intercession pour les autres. Alors en conclusion, Je trouve que cette histoire nous appelle à faire plusieurs choses. D'abord, Abraham est assis à l'entrée de sa tente, il observe. Et je pense qu'il est à nous d'observer autour de nous. Est-ce qu'il y a à l'horizon des étrangers que nous pouvons inviter sous notre tente? Peut-être que nous pouvons prier cette semaine. Montre-moi, Seigneur, quelqu'un qui est perdu dans le désert de la modernité, comme j'ai dit. Une personne, une famille. Et que nous puissions ouvrir notre cœur et notre maison, développer un cœur généreux, confiant, développer la libéralité. Libéralité, c'est être libre. Libre de la dépendance de nos biens, libre de les utiliser pour bénir d'autres. Confiant, parce que nous avons ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui s'est donné pour nous, celui, comme dit Romains 8, qui n'a pas épargné son propre fils, ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Jésus s'est donné, il s'est offert et il a dit, je suis le vrai pain de vie, c'est moi que vous mangez, c'est moi la vraie nourriture. Alors, pourquoi pas regarder son agenda? Pourquoi pas, peut-être si vous êtes en famille, regardez, tiens, est-ce que je peux concrètement cette semaine appliquer cette idée d'hospitalité? Est-ce qu'on peut peut-être regarder notre budget? Est-ce que j'inclus là-dedans la libéralité, la générosité, l'hospitalité? Regardez son cœur, Seigneur, est-ce que je me suis attaché à une bénédiction particulière? Est-ce que tu me demandes de te le rendre, de te l'offrir? Est-ce que je mets sur l'autel ce que j'ai de plus cher? Est-ce que j'ai cette générosité de cœur de regarder ceux autour de moi qui peut-être méritent le jugement de Dieu, mais d'implorer Dieu qu'il fasse grâce. Et peut-être que Dieu mette sur notre cœur une ou deux personnes, peut-être nos voisins, et qu'on puisse implorer Dieu pour eux, pour qu'ils soient épargnés du jugement de Dieu. Voilà, merci de votre écoute et votre patience. Alors, est-ce que on peut prier pour conclure? Ouais, ok. Éternel, tu es celui qui vient vers nous. Et dans cette histoire, Tu n'avais pas vraiment besoin de l'hospitalité d'Abraham. Tu n'as pas besoin qu'on te donne à manger. On ne peut pas te donner quoi que ce soit. Mais Seigneur, tu cherchais un homme qui allait t'accueillir. Tu cherchais quelqu'un qui était prêt à t'écouter, qui était prêt à entrer en dialogue avec toi, qui était prêt à recevoir une promesse de ta part. Seigneur, je te prie que nous puissions tous, autant que nous sommes, être à l'image de cet homme qui t'a accueilli sans savoir que c'était toi, qui a accueilli des inconnus. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur généreux. Donne-nous d'être à l'affût des gens que nous pouvons accueillir chez nous réellement. Donne-nous, Seigneur, d'être comme cet homme qui intercède, qui prie pour ceux qui ne connaissent même pas, mais il prie ta grâce, il prie ta miséricorde. Donne-nous, Seigneur, je te prie, d'avoir un cœur un peu plus grand à la sortie de ce culte. Amen.